Bonjour à tous les auditeurs d'ABK Radio et particulièrement à ceux qui se trouvent du côté de Yassa.
Vous saluez Yassa effectivement parce que vous venez de là. Monsieur Robert Nganguet, président de l'ARIDEL. Vous êtes d'abord conflictologue, diplomate en service dans un organisme de l'ONU. Par ailleurs, effectivement, président de l'association des ressortissants de Yassa pour le développement en abrégé ARIDEL. Nous vous recevons comme tel ce matin, mais on va d'abord exploiter la casquette de conflictologue que vous êtes. C'est quoi un conflictologue ?
La conflictologie, c'est une branche de la science politique qui essaye d'étudier, c'est la science qui étudie les conflits, la science qui étudie les crises, et qui, depuis la mise en place des Nations Unies, après le décès de la SDN, qui ambitionnait justement de tout faire pour éviter les crises mondiales que nous avons connues. Donc c'est justement cette situation qui a favorisé la recherche et justement le lancement de cette branche de la science politique.
Malheureusement, aucune crise n'a été évitée aujourd'hui. D'ailleurs, on peut bien voir qu'à travers le monde, et même au Cameroun, des crises, des foyers de crise sont bien installés un peu de partout.
Exactement, parce que l'homme, il a dans ses gènes, justement, c'est une philosophie. Le philosophe, je crois, Hobbes, qui disait que l'homme est essentiellement mauvais. Et donc, sur cette base, il fallait foncièrement qu'on essaye de réfléchir sur un mécanisme sociétal qui devrait justement mettre en place des normes et dicter des normes pour essayer de guider l'action des hommes dans les sociétés. Et vous voyez que même dans les couples, évidemment, on se marie pour le meilleur et le pire, et quelques temps après, c'est des divorces. En milieu entrepreneurial, dans les entreprises, il y a des conflits. Presque dans tous les milieux, il y a des conflits. Ça veut dire que les conflits sont inhérents à la nature humaine. C'est en cela, véritablement, qu'il faudrait qu'on s'y positionne, parce que dans votre réflexion, vous ne voyez qu'un conflit comme justement...
Un affront avec des armes.
Avec des armes, et puis évidemment, des affrontements entre États. Mais il faut aller au-delà, parce que le conflit, ça se vit tous les jours. Nous avons des conflits à l'intérieur de nous-mêmes, en tant qu'êtres humains. Voilà. Et donc, c'est une dimension beaucoup plus globale. C'est justement en cela que consiste la conflictologie.
Et donc, quelle est la participation de l'ONU ? Vous n'allez pas nous révéler les secrets de comment est-ce que vous faites pour résoudre ces crises-là. Mais quelle est sa participation dans les États en crise aujourd'hui ?
Alors, elle est multiple et très souvent de manière pas très visible de tout le monde, pas très visible des citoyens. Alors, il y a une dimension préventive. Avant qu'un conflit n'éclate entre États, il y a une vaste gamme d'activités qui sont déployées par les Nations Unies, notamment pour essayer de remettre les parties prenantes autour d'une table, pour essayer de l'apaiser de manière politique, sans forcément recourir à l'option militaire. Et donc, ça consiste très souvent par les envoyés spéciaux qui se déploient sur le terrain à la demande des États. Ça se déploie également par la présence des institutions internationales chargées, par exemple, des droits de l'homme, pour essayer de venir enquêter et apporter toute la lumière sur certaines situations qui ont été portées à l'attention des Nations Unies. Donc il y a un ensemble de mécanismes justement avant que le conflit n'éclate. Parce que le conflit lui-même, c'est comme une courbe. Il y a un moment où il démarre et c'est parfois très latent et pas très visible de tout le monde. Jusqu'au moment où il commence à avoir des manifestations très visibles et directes qui sont très souvent caractérisées par une violence. Elle peut être directe ou indirecte. Et là, la communauté fait appel à certaines institutions pour essayer de venir au secours.
Il y a un jeune qui vous écoute qui se demande comment on fait pour devenir conflictologue. Est-ce qu'il y a un parcours académique ou une formation pratique ?
Alors, je pense que c'est le parcours classique après un baccalauréat. Je crois qu'à l'université de Yaoundé 1, nous étions derrière la première promotion à faire Sciences Po.
Quelle année ?
C'était en 92-93. Donc, la première promotion. Et ensuite, vous avez l'option de faire les études de paix ou les études tout simplement d'analyse des conflits, et ça se fait dans beaucoup de plus en plus d'universités aujourd'hui.
Et voilà pour le parcours. Revenons donc à Yassa. On entend toujours parler de Yassa en faisant référence à l'axe qu'on traverse pour aller à Yaoundé, mais Yassa ne se résume pas simplement à un axe routier. S'il fallait situer votre village, monsieur Nganguet, que diriez-vous ?
Alors, le village Yassa est limité pratiquement à l'est, par l'hôpital Gynéco, que tout le monde connaît. À l'ouest, par justement, c'est le pont sur la Dibamba. Au nord, par le village Mbanga, qui est sur l'As, qui va vers Japoma et Niala, pour ceux qui connaissent. Et au sud, par le village Yachika. Donc, c'est un territoire assez vaste, contrairement à l'opinion, à l'imagerie populaire qui estime que quand on arrive au carrefour, il y a ça,
madame, sur Yaoundé. C'est tout, il y a ça en fait. Ouais. Mais quand on dit il y a ça, monsieur Nganguet, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est désordre, embouteillage, agression, vol, problème de terrain, bref, presque tout est peint en noir.
Malheureusement, c'est le côté péjoratif de Yassa, qui était traditionnellement et historiquement un très joli et paisible village composé de 3 ou 4 maisons et qui n'a pas échappé au boom démographique qu'a connu la ville de Douala et qui très rapidement, face à cette grosse pression, c'est devenu un carrefour incontournable pour voilà, le foncier et qui malheureusement a été géré dans la plus grosse anarchie et qui a justement débouché sur tout ce qu'on voit aujourd'hui, et très malheureusement.
Et que disent les autorités traditionnelles ?
Alors, les autorités traditionnelles, je crois que pour un départ, n'ont pas très vite compris l'importance d'essayer de canaliser ça très rapidement. Les enjeux étaient multiples. Vous savez, comme vous l'avez si bien dit, de nombreux conflits fonciers sont venus mettre en déroute toutes les initiatives d'harmonisation et de cohésion. Et c'est en cela que nous avons estimé qu'il y avait lieu de siffler la fin de la récréation pour dégager ou déclencher une initiative qui permettrait justement de militer en faveur d'une solidarité plus agissante pour essayer de mettre, de siffler la fin de la récréation.
Et d'ailleurs, quand vous parlez de régularité, vous faites allusion sûrement à l'association des ressortissants de Yassa, en abrégé Aridel. Et d'ailleurs, vous militez pour un mieux-être dans le village de Yassa à travers la mise sur pied de cette association-là. Quelles sont vos principales missions ?
Alors, vous l'avez si bien dit, c'est que ce qui est frappant, il n'y a pas, c'est ce désordre. Et on l'a constaté et on a estimé qu'il fallait réagir, qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter cette anarchie qui devient de plus en plus galopante. Chaque jour qui passe apporte son lot de facteurs et de situations très, très dégradantes et non intéressantes. Donc, il était question pour nous de nous organiser. Convaincus que éventuellement les pouvoirs publics, dans une certaine mesure, n'arrivaient pas à faire grand-chose pour stopper cela. Et on s'est dit qu'il y avait lieu de créer des synergies et des partenariats à la fois avec ces pouvoirs publics et les communautés et les populations. Bref, de mener une action citoyenne pour essayer de réveiller cela et le porter à l'attention des autorités afin qu'il y ait des synergies pour que cela puisse être régularisé.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous avons commencé par nettoyer, évidemment, la devanture de nos maisons. Nous avons commencé à mettre la propriété devant chez nous en nettoyant, en curant les caniveaux, dégageant les trottoirs, essayant de sensibiliser les riverains qui avaient des kiosques qui jonchaient les rues et qui, justement, étaient très, très néfastes à la libre circulation des biens et des personnes. Des commerçants et des sauveteurs dont les marchandises étalées sur la chaussée obstruaient totalement la chaussée. Donc ça fait environ 1,5 km déjà de route qui a été dégagée, 1,5 km de caniveaux qui ont été curés, du gazon planté en bordure de route, des arbres et des fleurs plantés en bordure de route sur près 1,5 km. Donc ça démontre que c'est possible à partir du moment où la communauté est mobilisée et que, véritablement, chacun comprend que la propriété, c'est pas l'affaire, c'est pas l'affaire seulement des pouvoirs publics et des politiques ou des administrations.
Mais comment vous avez fait pour enlever, on va dire, entre guillemets, parce que vous ne vouliez pas qu'il y a ça, soit un deuxième Dokoti, en fait. Quelle a été votre stratégie ? Est-ce que, à un moment donné, les commerçants ne vous ont pas taxé de tous les noms d'oiseaux, en fait ?
Alors, je pense que notre stratégie, on a véritablement estimé que il fallait une très bonne stratégie pour démarrer cela. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé au cœur du village Yassa. Au cœur du village Yassa, c'est-à-dire dans le cercle où les ressortissants et les fils de Yassa. Oh, ça, c'est pas très visible quand on passe du carrefour.
Oui.
Et donc, la crème a très pris rapidement parce qu'on se sentait concerné. Et c'est les enfants qui ont porté le projet et qui ont commencé à se déployer progressivement vers les endroits qui portaient véritablement problème. Et ces endroits, on a recommencé tout simplement par une sensibilisation. Et la sensibilisation, c'était, je vous parle, mais de manière très, très respectueuse.
Mais est-ce qu'ils étaient toujours réceptifs aux messages passés ?
Je vais vous dire que dans la plupart des cas, 80-90% étaient très réceptifs. Je pense que je fais de la conflit, je suis conflictologue, et je crois que c'était une transposition de ces savoirs et de ces connaissances, justement au niveau de ma communauté. Il y a une façon de parler aux gens, on ne vient pas en procureur de la République, on ne vient pas en commissaire de police avec bardé de galons. Il y a une façon d'approcher les gens de manière respectueuse qui fait que on leur présente les enjeux d'une situation et je crois qu'ils adhèrent pour la plupart très facilement.
Alors, concernant effectivement les commerçants qui sont aux abords de la route, vous nous dites qu'effectivement vous essayez de les dégager progressivement. Mais pour le cas de Ndokoti, les commerçants vous disent « on veut se débrouiller, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Et pour le cas de Yassa, comment ça se passe?
Alors, le pari n'est pas encore levé. Mm. Le pari n'est pas encore levé, le challenge n'est pas levé.
Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé du côté de Yassa.
Alors, il faut redescendre vers Yassa. Pour ce qui se passe, quand on part de l'axe lourd du carrefour Yassa pour aller sur la bretelle qui va vers le village, vous conviendrez avec moi que pour ceux qui y passent, le changement est
visible.
Est très visible.
Mais au niveau du carrefour,
c'est au niveau du carrefour que le problème se pose. Et donc, c'est véritablement pour ça que nous lançons, j'empiète sur le. Nous lançons une campagne de 2 jours, une campagne d'activisme sur 2 jours, sur le thème Libérons la chaussée et les trottoirs à Yassa.
Mmh. Et comment, qu'est-ce que vous envisagez faire?
Il s'agit également de lancer une vaste gamme d'activités, entre autres des causeries, entre tous les pouvoirs publics concernés par la lutte contre le désordre urbain et les différents syndicats qui opèrent au niveau du carrefour Yassa et qui sont de près ou de loin responsables de ce désordre et de cet incivisme, pour engager une causerie avec eux, pour comprendre véritablement les motivations, les raisons, afin qu'ensemble, qu'on essaie de trouver des compromis et des pistes, qu'on explore des pistes pour essayer de résorber cette situation.
Donc il n'est pas question de les chasser simplement, mais il est question de mettre de l'ordre en fait, pour éviter que...
Alors, je pense qu'il y a une approche totalement radicale qui estime que la chaussée et la voie publique étant un domaine incessible. Donc non cessible. À partir du moment où on l'occupe, on sait que de près de loin on doit être dégagé. Donc ça c'est l'option radicale. Mais en marge de cela, on comprend que pour des raisons économiques, pour des raisons d'essayer de gagner son pain au quotidien, la situation et la précarité veut qu'on puisse se débrouiller. Et ça c'est quand même quelque chose qu'on peut admettre. Maintenant il revient donc au cours de cette causerie d'essayer de trouver quels sont les moyens les plus convenables pour pouvoir à la fois écouter les avis des uns des autres et pour trouver un terrain d'entente.
Est-ce que de plus en plus la RIDEL ne se mobilise pas parce que effectivement les compétitions sportives arrive au Cameroun, et d'ailleurs le stade Japoma est non loin de Yassa, et avant le report de la CAN, la RIDEL entendait se mobiliser pour ce rendez-vous sportif. Mais comment?
Alors, je vais certainement dire que c'est un combat ou un projet dans lequel nous sommes lancés depuis près de 3 ans, et justement bien avant la conception du stade, et effectivement les enjeux de la propriété au carrefour Yassa, c'est vrai qu'il y a cette CAN et ces compétitions internationales qui sont projetées, mais c'est d'abord une aspiration légitime de la communauté de Yassa qui aspire à la modernité, qui aspire à une certaine tranquillité et qui aspire à un cadre de vie meilleur. Donc en plus de cette aspiration communautaire, il y a le fait que le carrefour Yassa et Yassa c'est la porte d'entrée de la ville de Douala, et cette saleté nous interpelle tous en tant que responsable administratif, parce que quand on arrive par Douala, quand on part de Yaoundé, on passe par le carrefour Yassa, et ce bordel doit nous interpeller tous. Donc ça c'est l'enjeu national, et en plus donc il y a toute l'image du Cameroun qui va se profiler avec cette grande fête du football africain, et qui va certainement nécessiter qu'on se mouille tous le maillot pour essayer d'agir pour une belle image de notre pays à travers l'assainissement de Yassa.
En tant que président de l'association, on va dire que vous avez forcément des membres qui sont des jeunes de Yassa ou des vieux. Combien de membres compte l'association aujourd'hui?
Alors, l'association compte une cinquantaine de membres qui sont des fils et filles de Yassa. Et je sais que la dernière fois, lors de
nos
activités...
Pas forcément élite?
Pas forcément. C'est des enfants, c'est des jeunes. Il y en a qui ont 5 ans, qui sont très présents dans nos activités de nettoyage et d'investissement humain qui se tiennent 2 fois par semaine, les jeudis et samedis, de 7 à 10 heures. Et donc, je vous y invite d'ailleurs. Vous verrez que c'est toute la communauté qui est déployée, y compris les riverains. Les riverains.
Vous pilotez également des projets en faveur des jeunes du village Yassa. Et récemment, vous avez organisé, M. Nganguet, une session de formation sur l'élevage des escargots. Quel était l'objectif de cette formation et pourquoi le choix de la filière de l'escargot?
Alors, le choix de la filière escargot, parce que à la base, lancer un élevage d'escargot ne demande pas beaucoup de moyens comparé à d'autres types d'élevage. Et deuxièmement, parce que le filon de l'escargot, il n'est pas encore très développé au Cameroun. Par contre, c'est un filon très porteur, parce que en plus de la chair d'escargot, il y a la bave d'escargot qui est très recherchée par les industries cosmétiques et thérapeutiques. Et en plus, il y a des œufs d'escargot qui sont de plus en plus consommés, un peu comme les œufs de poule, etc. Donc, c'est un filon très porteur. Et nous avons pensé qu'avec notre jeunesse et le fort taux de chômage, ce serait intéressant de pouvoir contribuer à l'autonomisation des jeunes et à leur émancipation.
Élevage des escargots, oui, mais il se pose tout de même un problème de disponibilité des espaces. d'exploitation aujourd'hui, avec la vente exagérée des terrains. Vous-même, vous l'avez confirmé tout à l'heure, monsieur Nganguet, il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui qu'on vend les terrains à Yassa, et ce sont les ressortissants qui le font.
Alors, je veux tout simplement éviter l'amalgame. Mmh. Yassa ne se résume pas essentiellement aux vendeurs de terrain. Mmh. Alors, moi, je suis conflictologue, je suis diplomate aux Nations Unies, je ne suis pas vendeur de terrain. Mmh. Donc, je voudrais que ce soit assez clair. Il y a plein de Yassaïens, de ressortissants de Yassa, qui ne sont pas des vendeurs de terrain.
On les appelle les Yassaïens.
Yassaïens. je voudrais, pour rebondir sur votre question, nous avons donc mené...
Parlons d'espace, d'exploitation.
Oui, d'espace. Que, effectivement, tout n'est pas... L'élevage d'escargots n'a pas besoin d'une grande superficie. Alors, on peut le faire déjà sur un petit espace de 1000 à 2000 mètres, 2000 mètres carrés. Ce n'est pas véritablement quelque chose d'extensif comme un champ de manioc ou un champ de cacao. Il va falloir forcément avoir des hectares et des hectares de terrain. Mmh. Donc l'élevage des escargots n'est pas très gourmand en termes d'espace et ça peut se faire dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre maison, dans votre chambre, avec un petit seau, avec une roue de voiture abîmée. Et voilà, vous êtes...
Non, mais pour celui qui a des ambitions industrielles, voilà. Il faut tout de même un espace considérable.
Oui, mais même pour avoir une exploitation qui vous fait un chiffre d'affaires d'environ 1 million de francs, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 1 hectare de terrain. Mmh. Moins d'un hectare de terrain. Mmh. Avec 2000 mètres carrés, 3000 mètres carrés, vous pouvez le faire.
Une fois que les jeunes sont formés, comment s'opère le suivi et les financements de projets?
Alors, je veux dire qu'au niveau de l'Aridel, avec nos moyens très modiques, nous avons essayé de mettre à disposition un petit fonds de démarrage à tous les lauréats des formations que nous avons menées. Et il y avait une vingtaine. Et nous avons mis en place un partenariat avec un cabinet qui est justement spécialisé dans les lissicultures pour accompagner et conseiller techniquement les lauréats et ceux qui se seraient lancés. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que sur la vingtaine de lauréats, il y a 12 qui se sont véritablement lancés le lendemain de la formation, la fin de la formation, et que j'ai d'ailleurs pris le soin de rendre visite en compagnie du cabinet le week-end dernier, la journée du dimanche, tout l'après-midi. On a pris le soin de visiter les 12 pour les conseiller et s'assurer qu'ils étaient véritablement lancés dans le projet.
Est-ce qu'ils s'y sont lancés de façon collective ou individuelle?
Alors, l'idée au départ, c'était de susciter un entrepreneuriat individuel, de manière à susciter cette émulation, de vérifier l'engouement qui a été manifesté très clairement pendant la formation. L'objectif, à moyen terme, étant de mettre ensemble ces exploitations individuelles en forme de GIC ou de coopératif pour mieux les encadrer et valoriser la chaîne de production.
Au-delà de l'hésiculture, est-ce qu'il y a d'autres domaines de l'agro-pastoral que vous souhaiteriez bien inculquer à ces jeunes qui de plus en plus s'intéressent à ce domaine d'activité malheureusement aujourd'hui un peu galvaudé?
Bien sûr, le volet sur cette formation n'était que la première activité d'une vaste gamme d'activités qui est prévue. C'est un vaste programme qui est prévu justement pour l'autonomisation des jeunes. Et nous ambitionnons de réaliser une fois tous les 6 mois, 2 fois par an, des ateliers similaires dans des diverses filières, notamment la culture des champignons, plusieurs autres filières.
En cette période de vacances, comment s'organise l'Aridel au-delà d'occuper les jeunes pour leur permettre de davantage s'impliquer dans la tradition mais dans la culture? Mais parce que de plus en plus les jeunes, à l'ère du numérique et tout ce qui concerne le digital, on est un peu déculturé. Est-ce que c'est le cas des jeunes de Yassa ou alors forcément le patrimoine est conservé?
Alors, à Yassa, je peux vous dire que c'est l'un des rares villages de la ville de Douala où on voit encore des singes et des écureuils se balader. Et donc, je vous invite, Mireille. et c'est l'occasion pour moi de dire que notre jeunesse n'est pas aussi désemparée que ça. Il y a encore des espaces verts, contrairement à l'opinion qui fait penser que tout est tellement terminé.
Dégradé.
Et puis, d'ailleurs, l'un des slogans de l'Aridel, c'est Yassa, village propre et écologique. On respire encore de l'air frais, etc. Et donc, il y a une vaste gamme d'activités également récréatives pour les jeunes pour essayer de se rendre utile pendant les vacances.
Qu'en est-il de la langue maternelle?
Alors, ça fait partie partie des activités qui sont menées conjointement par la chefferie traditionnelle du canton Bakoko. Donc c'est un programme qui se fait tous les ans pour essayer d'apprendre, faciliter l'apprentissage de la langue maternelle, le Bakoko, à tous nos enfants.
Comment ça se fait ?
Ben écoutez, je crois que c'est quelque chose qui se fait déjà. Et toutes les vacances, le chef supérieur et son équipe mettent en place justement ce programme. Et tous les parents sont invités à y envoyer des enfants. C'est comme une colonie de vacances. Et voilà. Et pendant, je crois, un mois, ils sont totalement moulés dans l'apprentissage de la langue maternelle. Parce que de moins en moins, ça se parle dans les familles et les foyers aujourd'hui.
Est-ce que vous-même, vous parlez votre langue maternelle ?
Bien sûr. Je la parle très couramment.
On a au-delà de l'association, des membres de l'association qui vous écoutent, tout le village de la Hiyasa qui est mobilisé. Est-ce que vous pouvez leur passer un message en langue Bakoko ?
Bien sûr. Masome Mbour Bakoro, Masome Mbour Hiyasa, la Bombe Bob Seneto. Mleng kiti a radio la no ala gasien a mangleri longa Cameroun la longa vala a bolo ya hable resal a atan a puera tan la bing rimbinto bugwene a lovi mumba melo la bu la mumha mi juye bugwe alwa banywa campagne a ri jore banda en soumne yum pungu ale atan bichirene e long la gomna bichirene lirwila kabel bataye ngolo.
Tout ce que j'ai retenu, c'est campagne. Donc, je sais que le message a été entendu, mais parce qu'on voyait à qui de droit. Alors, Monsieur Nganguek, si je mets cette chanson, qu'est-ce qu'elle vous rappelle ? Vous allez certainement l'écouter à l'aide de votre casque. Et vous allez me dire ce qu'elle vous rappelle, cette chanson. Est-ce que vous l'entendez ou pas ?
Ah oui.
Oui, vous l'entendez cette chanson. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle ?
Beaucoup de très bons souvenirs.
Oui, c'est Michael Jackson, Bleeding. Je ne vais pas vous révéler le secret, que c'est votre ami Alex Yehoué qui nous a dit qu'effectivement, vous étiez fan de Michael Jackson. Est-ce que ça a changé ?
Oui.
Bah, il n'en revient pas.
C'est la belle petite surprise de ce matin.
Oui.
Je suis tellement ému que... En fait, oui.
Vous étiez le Michael Jackson du lycée ?
Du lycée polyvalent de Bonaberry. Mm. On avait créé un groupe à l'époque, les Jackson 5. Mm. Je dois avouer qu'à un moment, j'ai pensé faire une carrière musicale.
Et ça a changé, pourquoi ?
C'est les circonstances de la vie. Je crois que le chemin de Dieu, le destin, il vous oriente vers autre chose.
Bah, vous avez les larmes aux yeux, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout de même, bien que n'ayant pas poursuivi une carrière musicale, vous chantez, vous jouez un instrument de musique, quel est votre passe-temps au-delà d'entretenir les jeunes de l'association, de votre poste de votre couloir de conflictologue ? Qu'est-ce que vous faites dans les temps libres pour vous divertir ?
Oui, je dois avouer que c'est un virus qui ne vous quitte pas. Il m'est arrivé même à l'ONU, où je travaille. Nous avons des petits clubs récréatifs, où de temps en temps, on prend une guitare et on prend un micro et on essaie de faire un a cappella et on chante. Il arrive souvent que, jusqu'à présent, que je continue à le faire. Tout au plaisir de mes collègues et camarades et collaborateurs.
Bah, je peux vous garantir qu'Alexis vous écoute depuis Paris.
Vous allez nous faire un
vous
truc.
Vous chanterez pour lui ou pas ?
Voilà, ils étaient ensemble au lycée polyvalent de Bonaberry. Et il était dans l'orchestre du lycée. Ouais. Et c'était le Michael Jackson de l'époque.
Du groupe.
Voilà, vraiment, c'était le chanteur.
Il y a d'autres amis dans la bande, Lucas Handa, Didier Assiga, qu'il connaît très bien. Et c'était la belle époque. Et lui, il était au club journaliste. Mais si je parlais de ce virus, et ça vous rattrape, ça vous laisse.
Je suis sûr que quand Jackson. Est décédé, ça vous a pincé le cœur ?
Bien sûr, bien sûr. À l'époque, je travaillais à la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, et j'étais déployé à Goma en charge de l'équipe des enquêtes spéciales de la mission, les enquêtes spéciales sur les droits de l'homme. Et je revenais d'une mission et dans la radio du véhicule, on annonçait qu'il était parti. Alors j'avais le cœur déchiré.
Vous vous êtes dit, c'est un peu une partie de moi qui s'en va.
Exactement, exactement. Mmh. Et je la porte jusqu'aujourd'hui, c'est un virus qui...
Peut-être vous nous feriez un peu un petit Michael ?
Ben beaucoup plus la danse parce que la voix est de plus en plus enrouée.
Ouais.
Beaucoup plus que.
Vous allez danser ?
Je fais bien voulu, mais il n'y a pas de vidéo.
Ben, allez, non,
on prend.
Monsieur,
on prend
on va chercher
caméra.
La caméra.
On la filme et on met sur notre page.
Cherche la caméra. Oui, tu la portes. Il va nous faire du Billie Jean ou bien enfin, une chanson qu'il veut. Le temps qu'on aura porte la caméra. Alors, vous jouez aussi au foot un peu ?
Bah oui, le foot au Cameroun, c'est une autre religion. Aucun enfant ou aucun jeune ne vous dira qu'il n'a tapé sur le ballon. Mais j'étais pas très fan parce que j'étais totalement concentré sur
la musique.
Sur la musique.
Vous allez, Jackson, vous allez chanter et danser tout à l'heure. Mais je suis allé il y a quelques temps seulement à Yassa, après le carrefour Yassa évidemment. Vous voyez, vous entrez tout droit au niveau, vous allez un peu comme si vous alliez à la léproserie. Mais vous avez le goudron, c'est un très beau goudron. Mais après, il y a une déviation. Et puis, le goudron ne va plus droitement. Ça va d'un autre côté. Et on m'a fait savoir que c'était un monsieur qui travaille à l'ONU. Parce que je me suis dit que c'était la maison d'un ministre. C'était un ministre qui avait aidé à mettre le goudron là-bas. Mais on m'a dit que c'était un monsieur qui travaille à l'ONU, qui, lui, a usé de sa qualité, de ses moyens pour mettre le goudron là-bas. Je ne sais pas si c'est vous.
Négatif. Et je vous le dis et le reconfirme, il ne s'agit pas de moi.
Voilà. Mais vous savez bien de quoi je parle. Donc quand vous quittez au carrefour, vous allez comme si vous allez à la léproserie, vous avez le goudron, mais à un moment donné, juste à droite, il y a une petite déviation, le goudron va encore sur peut-être 2-3 kilomètres, mais ça va s'arrêter devant la maison de monsieur le... voilà. C'est pas
bien,
vous.
Il a bien dit que c'était pas lui.
Et je trouve que ma résidence ne se trouve pas de ce côté.
Mais vous avez...
On se retrouve plutôt du côté de la rive.
Alors, un secret à livrer aux filles qui nous appellent, puisqu'on vous reçoit en tant que président voilà, d'une association, évidemment, de la Ridel. Donc voilà, on va déposer tout ce qui est diplomate. Je dis aux filles qui nous écoutent que vous avez une très belle maison.
Merci, je crois que c'est une maison à la portée de tous les Camerounais.
Donc les filles peuvent venir.
Luc.
Je vois pas en quoi elle a quelque chose de spécial.
Alors est-ce que les filles peuvent venir visiter un peu?
Allez, au niveau de la maison, c'est là où tu interpelles les filles.
Je suis totalement d'accord avec lui, j'ai pas compris le projet, mais voilà. Je veux juste dire que j'ai une charmante épouse et donc
voilà.
Que votre cœur...
À qui je fais d'ailleurs un clin d'œil.
Et pour la petite histoire, son épouse a un pilon.
Attention, petit. Il n'y a pas de place pour vous.
Je veux vos 2-0 là, loin, à distance. Venez là-bas, vous allez voir.
Que votre cœur ne trouble point, madame. Il n'en est rien du tout.
Et donc, on a terminé.
Alors,
il a dit qu'il était un bon footballeur. Donc, si on fait les petits zéros là, les 2-0, il peut tenir.
Non, Blackoya, je pense que j'ai été très clair. J'ai dit, oui, j'ai tapé sur le ballon.
Comme tout le monde.
Mais je crois que j'étais beaucoup plus tourné vers la musique et le chant.
Donc, pour sortir, faites-nous notre Billie Jean alors. Alors, on va écouter, mettez la musique et levez le baffle, Mireille.
Allez,
et ce sera pour terminer.
Pas ce qui s'est passé.
Mais il n'est pas fini.
Non, il n'est pas fini.
Bravo.
Vous savez pourquoi dans les chansons de Michael Jackson, à chaque fois vous entendez ouh
quoi,
il faisait comme ça, il tapait, ouh, il tapait mal.
Mais vraiment, il est hyper sympa, ouais. Vraiment hyper sympa. Loin de nos grands titrologues qui sont ici, qui sont des grands professeurs, et voilà, souvent vous appelez quelqu'un, vous oubliez de mettre docteur sur le nom et il vous remonte rapidement les bretelles. Mais on avait un monsieur hyper sympa, hyper joyeux, voilà, hyper ouvert, hyper accessible et humble, et on voulait lui dire merci à notre Michael Jackson qui est avec nous.
Merci, merci Mimi, merci Bruno, merci
Luc,
à toute l'équipe.
Voilà.
Luc, ouais.
Et donc, qui a tendu à cette campagne de lutte contre le désordre urbain sur le thème Libérons la chaussée et les trottoirs de Yassa, qui débute demain?
Demain. Mm-hmm. Alors, le maire de la ville de Douala, le docteur Mbassandiné, est attendu. Vous savez, c'est les prérogatives qui rentrent dans les missions principales de la mairie de la ville de Douala, la lutte contre le désordre urbain. Respectivement, les sous-préfets et maires de la commune, le 3e arrondissement de la ville de Douala, qui sont au four et au moulin déjà. La délégation régionale du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, qui, vous savez, est le bras de Madame la ministre Célestine Kétia-Courtès, qui se bat aussi, on l'a vu au front à plusieurs reprises, pour essayer de faire la toilette à nos villes. Donc, il y a une gamme d'autorités qui sont attendues. et en colosse de concert avec tous les responsables des syndicats au Carrefour Yassa.
Et la campagne commence à quelle heure?
Elle commence demain à partir de 8h.
Et je rappelle qu'au programme, on aura la caravane motorisée de sensibilisation de proximité avec des prospectus, investissement humain, causerie avec tous les acteurs concernés. Et donc, Monsieur Nganguet, président de l'association des ressortissants de Yassa pour le développement, en abrégé Aridel, on a passé un magnifique moment avec vous. Bah, merci de nous avoir fait transpirer.
Merci et puis très bonne journée à bonne continuation à Radio ABK.